Michel Théron, bonjour.
Bonjour Guylaine.
Alors, vous êtes un habitué de FM Plus 91 FM à Montpellier et nos auditeurs et auditrices le savent, vous écrivez.
J'essaie, oui, j'essaie d'écrire, oui.
Et vous rééditez aujourd'hui Les Mystères du Credo et vous avez ajouté à ce titre qui est à ce titre de livre qui est une réédition, un christianisme pluriel. Donc voilà.
C'est une réédition augmentée. J'ai ajouté certaines choses et j'ai changé le titre par rapport à la première édition qui était chez Albin Michel en 2001.
Oui.
Et donc ça s'appelait Les deux visages de Dieu. Le sous-titre c'était Une lecture agnostique du credo. Donc là j'ai revu entièrement mon texte. J'ai supprimé le mot agnostique.
Oui.
Le nouveau sous-titre correspond beaucoup mieux.
Oui.
Même le titre, parce que les deux visages de Dieu, en fait, c'est les deux visages du Christ. Voilà, c'était purement commercial d'avoir mis le titre Les deux visages de Dieu. Et puis le sous-titre que j'ai choisi là, un christianisme pluriel, me semble correspondre davantage au contenu du livre.
Alors, dans votre préface, vous annoncez votre travail de détective littéraire. Vous nous dites qu'un chercheur en littérature s'occupe de tout ce qu'un texte peut dire. Ça va bien plus, cette expression-là.
Oui, peut dire, voilà, pouvoir dire. En effet, le savant, l'historien s'occupe de ce que le texte veut dire en insérant le texte dans le contexte de son époque, dans le contexte rédactionnel. Et moi, je ne suis avant tout littéraire. Je ne suis pas historien. Je m'intéresse à l'histoire, bien sûr, mais je ne suis pas historien de formation, je suis littéraire. Et donc, ce qu'un texte peut dire aujourd'hui, je me situe dans une esthétique de la réception, et non pas dans celle de l'émission du message, entre guillemets. Voilà.
Oui. Alors ça, je trouve que dans cette préface-là, c'est très important, je crois, pour continuer à lire votre livre, Les Mystères du Credo. Alors, quand on dit credo, Michel Théron, il y a en fait deux textes, et cela vous nous le dites très vite, le symbole des apôtres et le symbole de Nicée. Deux textes que vous allez analyser presque mot à mot.
Voilà, donc je les analyse dans leur version latine pour les apôtres et puis grec et latine pour Nicée. Hein. Donc ma formation est celle des lettres classiques, dont le grec et le latin me sont familiers. Et finalement, je suis parti d'une constatation. Moi, je viens d'un milieu catholique, vous voyez, Guylaine. Donc, maintenant, je m'en suis éloigné. Bon, mais je ne suis pas du tout hostile, bien sûr, à la problématique religieuse. Pas du tout. Au contraire, je suis passionné par cela. Mais à la messe catholique, j'entendais tantôt un credo, tantôt l'autre. Hein. Ordinairement, la semaine, on disait le petit credo, parce qu'il est court, le symbole des apôtres. Et puis, le dimanche, le grand credo, plus long, celui de Nicée, voilà.
Mais il y avait des moments particuliers où on disait le symbole de Nicée.
On le disait, par exemple, la messe de minuit à Noël.
Ah, voilà,
là on disait effectivement ça.
Des grandes fêtes.
Mais et alors, j'ai regardé le catéchisme de l'Église catholique et j'ai vu que les deux credos sont disposés côte à côte, hein, et sont représentés comme équivalents en quelque sorte. Alors on nous dit, vous avez qu'à combler les manques d'apôtres, qui est beaucoup plus court, par ce que Nicée apporte, qui est beaucoup plus long. Bon. Or, moi, ça m'a pas convaincu.
C'est pas tout à fait ça.
Et je trouve que l'attitude des orthodoxes et celle des protestants est meilleure. Les orthodoxes ne reçoivent qu'un seul credo, c'est celui de Nicée-Constantinople. Mmh. Voilà. Et les protestants, quand ils n'ont pas de confession spécifique, comme la confession de La Rochelle, je crois, vous voyez, donc ils récitent apôtres. Voilà.
Le symbole des apôtres.
Voilà, symbole des apôtres.
Ouais.
Alors, pourquoi je vois une différence? Eh bien, ça me semble quand même essentiel. La figure du Christ n'est pas la même. Il ne s'agit pas de la même christologie, c'est-à-dire la même image du Sauveur, du Christ, du Messie Sauveur. Dans le symbole des apôtres, il s'agit d'un homme qui naît du ventre d'une vierge, qui grandit, qui arrive à l'âge adulte, fait une prédication, et à la fin, il devient un... Alors, il devient... Il y a des époques très importantes, son baptême, par exemple, où le psaume d'intronisation du Messie royal est prononcé, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, etc. À la transfiguration aussi, donc il y a des... Dans les synoptiques, dans les évangiles synoptiques, il y a donc des moments cruciaux de sa vie où il est en quelque sorte reconnu, intronisé par Dieu. Et puis après, il devient Dieu après sa mort et sa résurrection, selon un schéma bien connu des anciens qui est l'apothéose. Alors apothéose, c'est un mot grec qui veut dire la divinisation. Voilà, un homme de chair et de sang, comme vous et moi en quelque sorte, est élevé à la dignité d'un Dieu finalement au terme de après la résurrection. Alors que dans Nicée, c'est tout autre chose. Il s'agit d'un Dieu consubstantiel au Père, c'est-à-dire de même essence que lui, de même substance que lui, hein, qui descend du ciel d'où il est venu, en quelque sorte, partage le sort des hommes pendant un certain temps, et puis remonte au ciel d'où il provient. C'est deux choses. Alors, d'un côté, un homme qui devient Dieu, et de l'autre côté, un Dieu qui devient homme. Alors, moi, je ne vois pas du tout le même scénario. Alors j'en ai discuté avec un père théologien, un catholique, qui me disait, mais monsieur Théron, tout ça, ça a été réglé un concile suivant qui est Chalcédoine, voilà, oui, je voyais, c'est ça. Voilà, le concile de Chalcédoine, voilà. Ça a été réglé au concile de Chalcédoine où on nous a dit que Jésus avait deux natures, une nature humaine, donc ça correspond à apôtre, hein, et une nature divine qui correspond à Nicée. Bon, ça ne m'a pas très convaincu. Lui, il était convaincu, ce cher père, là. Ça ne m'a pas convaincu parce que cette double nature... Bon, moi, j'ai un esprit logique, je me dis, bon, ben, quand il fait jour, quand il fait nuit,
bon, c'est l'un ou c'est l'autre.
Ouais. Alors, je sais bien qu'il y a au musée royal des Beaux-Arts à Bruxelles un tableau de Magritte qui s'appelle l'Empire de la Nuit, je crois, hein, bon, où l'on voit un premier plan nocturne avec un lampadaire et une ambiance de nuit, et puis derrière, l'Empire des Lumières, voilà. L'Empire des Lumières, vous voyez, je sors de deux longues émissions,
bah oui.
Et donc mon cerveau, il faut que je supplie le Saint-Esprit, que je chante le Veni Creator Spiritus, viens,
mais je vous en prie,
viens Esprit Créateur, mentes tuorum visita, visite les esprits des tiens, hein, voilà, de tes disciples. Donc j'ai vu ce tableau de Magritte, où il y a derrière un magnifique ciel bleu avec des nuages, et au premier plan, une scène nocturne, l'Empire des Lumières. Alors, c'est ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire un mélange de deux réalités, une contradiction. Donc, il fait jour et il fait nuit en même temps. Bon, mais ça, c'est de la poésie, c'est de la peinture, c'est de l'art. Bon, qu'en est-il, justement, théologie. Remarquez, je dirais que c'est de la théologie surréaliste. André Breton disait que le surréalisme, c'est un état où les contraires cessent d'être perçus contradictoirement. Hein? Bon, alors, après tout, pourquoi pas? J'aime bien la poésie, hein? C'est une théologie poétique. N'empêche que je crois que quand même que les protestants ont une option, les orthodoxes en ont une autre. Bon, la moindre des choses, ce serait d'indiquer plutôt que de parler du credo. Hein,
ouais,
voilà,
c'est ça.
Le credo.
Alors là, vous avez résumer un peu vous avez fait une synthèse de la problématique de la présence de ces deux credos mis en parallèle. Mais ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous vous arrêtez quasiment à chaque expression de ces deux textes, et vous les comparez. Et moi, je me suis amusée comme ça à prélever des mots qui m'intéressent. Et j'aimerais un peu qu'on en discute, plutôt que vous.
Oui, c'est
vous
important les détails. Il y a un proverbe qui dit « Diabolus in infimis la terre,
voilà.
La tête. Le diable se cache dans les détails.
Alors, par exemple, je me suis arrêtée à la formule qui dit « Dieu tout-puissant » que l'on trouve dans les deux textes. Et dans les symboles des apôtres, il est dit « Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant » et dans le symbole de Nicée « J'ai foi en un seul Dieu, Père Tout-Puissant ». Et vous nous dites, Michel Théron, que voilà la façon dont on qualifie ce Dieu de puissant. D'abord, il y a des nuances dans cette façon de faire. Et puis, la question que je me pose aussi, c'est que cette notion de puissance n'était pas la même au IVe siècle que celle que
Absolument.
Nous avons aujourd'hui.
Absolument. Mon ami, que je respecte beaucoup, André Gounel, ne croit pas à la toute-puissance de Dieu. Hein. Et je crois que beaucoup de recherches théologiques actuellement récusent cette idée, parce que effectivement, cela mène à une sorte de fatalisme, une annulation de toute volonté humaine. C'est l'opposition naguère entre Pélage, un Celte, hein, et Augustin, un Méditerranéen. Augustin d'Hippone, c'est en Tunisie, Tunis, voilà. Pélage disait, l'homme a une possibilité de faire son salut par ses actions, bien sûr pas complète, pas totale, mais elle a quand même une certaine possibilité. Mmh. Et Augustin, qui a triomphé contre Pélage, a dit non, finalement, la toute-puissance est à Dieu, rien à l'homme et tout à Dieu. Donc, les orthodoxes sont plus subtils parce qu'ils disent qu'il y a une toute-puissance, mais en même temps, il y a ce qu'ils appellent une synergie, synergeia, c'est-à-dire que l'homme doit aussi collaborer avec Dieu,
ouais.
mettre la main à la pâte, en quelque sorte. Mmh. D'ailleurs, Guylaine, dans la Genèse, quand Dieu a créé le monde, les animaux, tout ça, il donne à Adam le pouvoir de nommer les animaux. C'est Adam qui doit les nommer. Donc, Adam a quelque chose à faire, quand même. Hein.
Ouais,
bon, et les noms que Adam impose aux animaux seront les noms des animaux. Mmh. Donc Dieu se retire en quelque sorte et dit à Adam, à toi de jouer. Maintenant c'est à toi. Donc cette idée de toute puissance, elle est beaucoup contestée actuellement par les théologiens.
Et déjà apparemment, il y avait quand même une question aussi.
Ah ben bien sûr.
À cette époque-là.
Oui. Si, vous savez, Guylaine, si Pélage l'avait emporté, on aurait une vision beaucoup plus libérale de notre action. Tenez, quelque chose à quoi on pense jamais. Moi, j'aime bien faire des ponts entre des domaines absolument différents. Le problème du droit français, le droit français. Le droit français présuppose que l'homme doit parfois être défendu contre sa propre folie. Par exemple, on ne peut pas déshériter ses enfants en France. Hein. Mmh. Bon, donc il y a pour chaque enfant une part réservataire qui lui revient. Donc l'homme ne peut pas tester comme il le veut, c'est-à-dire faire les testaments qu'il veut dans les pays latins en général, en France en particulier. Alors qu'aux États-Unis d'Amérique, on peut faire tous les testaments que l'on veut. Et le problème se pose avec la mort d'un célèbre chanteur. Hein, est-ce que c'est le testament californien qui va l'emporter,
voilà.
Voilà. Alors je dirais que le droit français est tout imprégné d'augustinisme, hein, parce que c'est Augustin qui a inventé le fameux péché originel. Le péché originel n'existe pas dans les évangiles. Il existe peut-être déjà en linéament dans tel épître de Paul. Hein, bon. Mais en fait, les évangiles non. Et le judaïsme ne pense pas que l'homme n'est pécheur. L'homme, il est responsable de ce qu'il fait. Il ne n'est pas pécheur. Hein. Alors, si Augustin ne l'avait pas emporté, nous aurions une liberté beaucoup plus grande. Donc, vous voyez que l'anthropologie du droit peut renvoyer à des notions théologiques. Bon, voilà, tout est lié.
En tout cas, vous faites bien le lien. Alors, un autre terme sur lequel on pourrait aussi s'arrêter, c'est le terme « engendrer ». Alors, vous le dites, pour le croyant ordinaire, cette question liée à l'engendrement reste finalement très embrouillée. Pas du tout clair comment ça a bien pu se passer. Ou pire, vous dites, il n'y a pas le sentiment d'un problème.
Ah oui, bien sûr.
Il y a des pointes d'humour dans votre texte.
Ah, c'est sûr, parce que, on interprète cet engendrement avec une littéralité effrénée. C'est une expression de Renan, hein, d'Ernest Renan, une littéralité effrénée. Et je cite le mot d'un archevêque du milieu du 19e siècle qui disait que non seulement Jésus était fils de Dieu, mais encore il était d'excellente famille du côté de sa mère, vous voyez. Bon, donc, il s'appelait Quérin, enfin je cite dans le livre cet archevêque de Paris. Donc c'est une sottise, mais on a interprété ça littéralement. Mais d'ailleurs, regardez notre calendrier, Guylaine. Regardez, le 25 mars, vous avez l'Annonciation, et vous avez le 25 décembre, la naissance. Entre le 25 mars et le 25 décembre, vous avez 9 mois. c'est-à-dire le temps d'une gestation humaine. Le temps de... Donc on interprète ça littéralement, hein, cet engendrement. Ouais. Alors que dans le livre, je montre bien que c'est symbolique, engendré, symbolique, ça veut dire adopté. Hein. Ouais. Dans le psaume d'intronisation, je crois que c'est le psaume 2, verset 7, quelque chose comme ça, à vérifier. Hein. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, » dit Dieu. Bon, si, on voit pas, s'il était déjà adulte, on voit pas qu'il aurait pu l'engendrer. Mmh. Bon, donc, c'est-à-dire « je t'ai adopté hein. ». Engendré, c'est adopté. Mais nous, on l'a pris littéralement.
Oui, ce qui est ouais. Et vous le dites très bien, ce qui est ça ne tient pas la route.
Ah ben, ça ne tient pas la route. Non, non, c'est cette vision littérale. On meurt de littéralisme aujourd'hui. Hein. Donc, le fils de Dieu. Alors, je ne sais plus, j'avais lu dans Bref de comptoir, si Dieu meurt, c'est le fils qui hérite de tout. Vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, donc, voilà. Mais l'humour était, il faut de la saveur et pas seulement du savoir. C'est le même mot, hein, sapore, hein, saveur et savoir. Bon, je crois que. Et puis je pense que les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux, hein, il me semble.
Ça, je suis bien d'accord. Alors, le point central du christianisme, c'est la crucifixion de Jésus, dont il est question aussi, bien sûr, dans ces deux textes du Credo. Mais est-ce que cette question est traitée de la même façon ?
Non, parce que le symbole de Nicée ne dit pas « il est mort ». Il ne dit pas « il est mort ». Donc, subit sa passion, il a été enseveli, etc. Donc, c'est intéressant, ça, que le mot « mort ». Bon, il y a une figure de style qu'on appelle la métalepse qui dit, par exemple, au lieu d'une chose, qui dit ce qui suit la chose. Par exemple, au lieu de dire « il est mort », on dit « nous le pleurons ». Nous le pleurons. Hein. C'est une variante de métonymie appelée métalepse. Bon, donc c'est un évitement. On évite de dire qu'il est mort parce que ça serait trop tragique, etc. Mais en même temps, je dirais, vous voyez, c'est une idée qui me vient maintenant, je ne sais pas si je l'ai mis dans le livre, que les docettes auraient pu s'engouffrer là-dedans en disant que Jésus n'était pas mort. Les docettes sont des gens qui pensaient que Jésus n'était qu'une apparence, n'avait une forme comme un fantôme, une apparence. Mmh. Ça vient du grec dokein, sembler paraître. Donc certains docettes ont dit il n'est pas mort véritablement. Certains ont dit que c'est un autre qui a été crucifié à sa place, par exemple Simon de Cyrène qui a porté la croix, hein, il a été crucifié à la place de Jésus. Et alors c'est la christologie du Coran. Hein. Le Coran, une sourate, dit très bien que ceux qui disent que Jésus est mort ont été dupes d'une illusion. Hein. Et il n'est pas mort du tout, il a été élevé dans le ciel, d'accord, mais il n'est pas mort. Donc dans ces failles-là peuvent s'engouffrer des gens qu'on a, des personnes qu'on a décrétées hérétiques ultérieurement. Alors, je pense que ce qui compte, c'est de scruter. Moi, vous voyez, j'ai pas de formation théologique universitaire, mais comment dire, j'escalade à main nue. Vous voyez, j'escalade comme c'est une montagne, ça, hein, à main nue. Voilà, bon, ou sans filet.
Donc vous appuyez sur les mots.
Voilà,
pour grimper.
Je remarque que il est mort, n'est pas dans le symbole de Nicée. Alors, en plus, si on insiste trop sur la mort, alors on aura le dolorisme, la pathétisation que vous avez en Occident, par exemple. Et donc, tenez, par exemple, à Jérusalem, hein, le même lieu est appelé, par les catholiques romains, le Saint-Sépulcre, hein, et par les orthodoxes, la basilique de la résurrection. Oui. Thes Anastasios, de la résurrection. Oui. C'est pas du tout pareil, hein. Donc, pour l'orthodoxie, il n'y a pas ce dolorisme, cette pathétisation. C'est pas pour rien que l'orthodoxie s'appuie sur Nicée, hein. Donc, chez nous, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que on a d'abord le petit bébé qui, le Jesu Bambino des Italiens, ou le bébé Cadom, si vous voulez, aux chairs roses et potelées, qui s'agite sur la crèche, là, dans la crèche, et à la fin, on aboutit au cadavre, hein, le cadavre. Par exemple, je pense au Christ mort d'Holbein, hein, où on voit un homme étendu, aux chairs putréfiées, toutes verdâtres déjà, et puis Dostoïevski nous dit dans L'Idiot que ce tableau ferait perdre la foi à n'importe qui. Dostoïevski, c'est un orthodoxe. Hein. Donc je dirais que pour les catholiques romains, on part du rose, des chairs potelées, et on arrive au cadavre. alors que pour les orthodoxes, c'est tout à fait différent. Si vous regardez comment on fait une icône, on part du proplasma, c'est-à-dire une forme qui est totalement obscure, mais petit à petit, par des glacis, on fait monter les lumières, et à la fin, on met le fameux iconopse, hein, les striures lumineuses, un souvenir de la transfiguration. Donc on va du noir ou des ténèbres à la beauté surnaturelle. Donc c'est deux options différentes. Parce que si je dis il est mort, bon, alors je peux après détruire la foi véritablement devant un cadavre. L'orthodoxie est plus fine. Et c'est pas pour rien qu'elle s'inspire de Nicée, où ne figure pas le mot il est mort, vous voyez.
Oui. Alors pour la résurrection, il y a aussi des nuances de vocabulaire et des nuances de perception de ce concept, de cette notion, de cet événement. Je ne sais pas. On parle de la résurrection de la chair dans le credo et dans le symbole de Nicée.
Alors, résurrection de la chair, c'est dans les apôtres. La résurrection
dans les apôtres,
de la chair, oui.
Et dans le symbole de Nicée, la résurrection des morts.
Oui, c'est pas du tout pareil. De toute façon, la résurrection de la chair suppose la réanimation d'un cadavre. Hein. C'est quelque chose, c'est un peu comme le retour des morts vivants, c'est un film d'horreur, en quelque sorte. Hein. Donc, oui, c'est ça. Mais regardez ce que dit le Dies Irae. Hein. Mors stupebit et natura cum resurget creatura judicanti responsura. C'est-à-dire, la mort sera stupéfaite et la nature, hein, quand se redressera la créature pour répondre à son juge. C'est le retour des morts vivants. C'est une vision assez terrifiante, cette résurrection de la chair. Alors que dans Nicée, dans le symbole de Nicée, c'est plus subtil. Nicée est plus subtil. Apôtre, c'est littéral, souvent, marqué par le paganisme romain aussi, comme je l'ai dit en commençant. Mais Nicée est plus subtil, parce que résurrection, ça peut signifier se redresser, mais ça peut signifier aussi s'éveiller. Vous avez deux mots en grec, hein. Egersis, l'éveil, hein. Bon. Et anastasis, la résurrection, hein, le redressement. Voilà. Resurgere en latin. Donc, je pense, enfin, je ne sais pas votre avis, Guylaine, mais que, je crois que M. Gounel aussi n'y croit pas beaucoup à la résurrection de la chair. Il me semble en avoir parlé avec lui. Et c'est pas... Voilà. Alors, je sais bien que Paul dit il est semé corps corporel et puis il renaîtra corps spirituel. Bon, c'est vrai. Il y a une énigme là-dessus. Mmh. Mais affirmer la résurrection de la chair... D'ailleurs, l'Église catholique, elle-même, elle est prudente maintenant. Elle dit ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Vous voyez, c'est très subtil et très prudent.
Ouais. Alors, il y a une phrase vers la fin du livre, mais pas tout à fait. Vous la mettez aussi dans votre résumé d'ailleurs, et vous avez ces propos. Il faudrait que le croyant, pour être plus lucide, se rende compte que de la générosité de garder ces deux textes se crée une richesse que vous, Michel Théron, estimez préférable à leur cohérence. Il faudrait aussi que l'incroyant s'en rende compte pour qu'il soit moins ricanant. Le livre ne démystifie rien. Ces contradictions font vivre et la stricte rationalité n'a jamais fait battre le cœur.
Oui, alors le ricanement voltairien de l'incroyant m'insupporte. Hein. Moi, je trouve que bon, c'est facile de se moquer de ces choses-là. J'ai mis un épigraphe du livre. Il n'y a que les folles, certains et résolus.
Oui,
les fous,
très
c'est de Montaigne. Hein. Ouais, il n'y a que le fou, celui qui ne doute pas. Je me souviens quand la première mouture du livre est parue chez Albin Michel, j'avais été invité à parler. Albin Michel, par l'éditeur à Radio Notre-Dame à Paris, et la dame qui, comme vous devant moi, là, qui m'avait interrogé, m'avait dit, mais alors, Michel Théron, à quoi croyez-vous? Alors, si vous voyez Dieu, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Ben, j'avais répondu qu'il me permette de croire en moi-même, vous voyez, croire en moi-même.
Vous êtes sorti immédiatement du studio.
Ben, oui, écoutez, je ne sais pas, mais je dirais que maintenant... Moi, il y a une seule. Je crois à la nécessité de croire, voilà. Voilà. Donc c'est Ettore Scola qui le disait ça. Je crois à la nécessité de croire. Donc voilà. Moi, je suis contre tout ricanement. Et je pense que les choses sont tellement complexes. Plus je vais, et d'ailleurs dans mon dernier livre consacré à la sagesse, sur les chemins de la sagesse, je fais l'éloge justement de l'empirisme. Hein, l'important important, c'est que quelque chose fonctionne. Je parle du film de Woody Allen, Whatever Works, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein. Quoi que ce soit, pourvu que ça marche, pourvu que ça fonctionne, pourvu que ça fonctionne.
Mais moi, je trouve quand même que votre conclusion, là, enfin, votre petite phrase presque de fin ou de résumé, elle va encore plus loin. J'aime beaucoup quand vous dites « ces contradictions font vivre ».
Et oui.
Et la stricte rationalité n'a jamais fait battre le cœur.
Absolument. De toute façon, que serions-nous? Valérie disait, que serions-nous sans le secours de ceux qui n'existent pas? Alors c'est perfide peut-être, c'est prodigieusement intelligent, mais nous sommes les fils de nos propres fictions. Voilà mon point de vue. Hein, et c'est très valérien. Moi, je suis tout à fait dans l'optique de Valérie. Hein. Donc nos fictions nous permettent de nous accoucher à nous-mêmes, de nous révéler. Hein. Alors je ne sais pas qui a commencé. On dit toujours comme dit l'autre, hein, ou qui est, où est la première fiction. Mais en fait, je pense que ces fictions sont instituantes. Hein. Que sans les romans, comment pourriez-vous faire la cour à une femme? C'est pas possible. C'est les romans qu'on a lus auparavant qui nous permettent, qui nous instituent et qui nous donnent une figure humaine en quelque sorte. Donc, ce sont des fictions, mais alors, ou des mythes, hein. Mythe est ce qui n'existe qu'ayant la parole pour cause, disait Valérie. Mais je distingue bien, vous voyez, Guylaine, deux choses. Le mythe mystificateur, il faut dénoncer, et le mythe instituant. Je pense que devant la mort, nous parlons comme Scheherazade, qui tous les soirs doit raconter une histoire pour ne pas être mise à mort. Hein. Voilà. Et alors le roi l'écoute, et s'il est captivé, il attendra le lendemain pour voir la suite de l'histoire. Donc, alors l'homme parle devant la mort comme le causeur adossé à sa cheminée, disait Valérie, ou bien comme Scheherazade, si vous voulez, qui parle devant le roi pour éviter justement pour peupler cette nuit. Ou alors, voyez Guylaine, la petite fille aux allumettes d'Andersen. Hein. Bon, elle a un stock d'allumettes. Eh bien, elle s'éclaire en grattant cette allumette. Elle s'éclaire, elle se réchauffe un peu. Alors, pour lutter contre le noir. Oui. Voilà, pour lutter contre le. Donc, c'est ce que Bergson appelait la fonction fabulatrice de l'homme. Hein, la fonction. Voilà. Donc, pour moi, ce sont des fables, mais des fables nécessaires. C'est pour ça que quand je disais, je crois à la nécessité de croire. Hein, donc, sinon, si nous n'avons pas cette institution, hein, cette éducation par ces fictions, dont je ne sais pas qui les a inventées en premier, je n'en sais rien, pour ça que je suis agnostique. Mais je crois, vous voyez, que je suis saint. Alors là, c'est le milieu protestant que j'ai fréquenté depuis ce livre, qui m'avait un peu fait rejeter de l'Église catholique. Et le milieu protestant m'a accueilli avec une grande amitié, donc je l'en remercie. Et ils m'ont dit que j'étais symbolo-fidéiste. Alors, le symbolo-fidéisme, je ne savais pas ce que c'était, vous voyez. Donc, c'est Auguste Sabatier, je crois, à la fin du 19e siècle, un protestant, qui avait dit que l'essentiel, c'est de donner crédit à un symbole pour que le symbole existe, vous voyez, de lui donner la foi, la fiducia en latin, la foi, la confiance, vous voyez. Donc si on y croit, le symbole est vivant, c'est ça le symbolo-fidéisme. Donc je suis symbolo-fidéiste sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Hein.
Mais pour terminer notre discussion, Michel Théron est toujours au sujet de votre livre « Les mystères du credo » que vous publiez là chez BOD. Est-ce que vous ne croyez pas que les paroissiens, les croyants qui vont à l'église, au temple et qui répètent ces credos, que ce soit le symbole de Nicée ou le symbole des apôtres, vont prendre ces textes au pied de la lettre, peut-être par ignorance, par manque de discernement par rapport à ces concepts, ces subtilités?
Absolument.
Ils s'engouffrent peut-être dans des sens qui finalement, que ces textes n'ont pas.
Oui, moi je trouve que le littéralisme est la pire des choses. D'ailleurs l'apôtre Paul le dit, hein, la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc il faut dépasser justement ces visions littérales et puis dépasser le catéchisme. Le catéchisme, ça veut dire répéter en écho une voix qui est descendue d'en haut. Kata qui vient d'en haut, hein, et Kain répété comme un perroquet. Voilà, c'est du psittacisme. Psittakos, ça veut dire le perroquet. Donc, il vaut mieux éclairer les gens sur ce à quoi ils disent croire. Hein. Il n'y a que chez nous qu'il est si long, que les credos sont si longs. Par exemple, chez les Juifs, il est très court. Hein, donc, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Hein, bon, Shema Israël, Adonai, Elohenu, le Seigneur est notre Dieu. Voilà. Et la Shahada des musulmans, c'est pareil. Hein, Dieu est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Allah Akbar, c'est un intensif. Plus grand que tout ce qu'on peut penser. Et Mohamed est le prophète. Voilà. Hein, donc, c'est très bref, ça.
Voilà. Mais là, on raconte des histoires.
Voilà, vous avez raison. Oui, très bien. Oui, oui, c'est ça. C'est narratif. Oui. C'est narratif. Et alors, je crois qu'on peut terminer par là. Il me semble que dans cette narration disparaît totalement l'enseignement de Jésus, l'enseignement spirituel, parce qu'on nous raconte, c'est du storytelling. Hein. Mmh. On nous raconte une histoire. Hein. Mmh. Et puis, ce que Jésus a dit. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dont je viens de parler, jamais il ne cite les paroles de Jésus. Alors, si, il les cite une ou deux fois, mais il dit comme l'a dit Jésus, comme l'a dit le maître, mais en fait, peut-être que c'est lui qui fait crédit à Jésus d'avoir dit cela. Hein. Mais il n'en parle pas, parce que ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le scénario de la mort salvifique du Sauveur, vous voyez. Donc, je crois, ça c'est très important. Moi, je suis passionné par l'enseignement de Jésus. Hein. Je reconnais qu'il est polymorphe, cet enseignement, qu'il est pluridimensionnel, qu'il y a plusieurs strates rédactionnelles dans les évangiles. Certaines me plaisent beaucoup, d'autres moins. Mais il n'est jamais question. Bon, parce que mettons qu'il ait commencé sa prédication à l'âge de 30 ans, qu'il soit mort à l'âge de 33 ans. Bon, il y a ses 3 ans de ministère. Or, il n'en est pas question. Il donne les credos, aussi bien il naît de la Vierge Marie, et puis il souffre sa passion, il meurt et il ressuscite. Qu'est-ce qu'il a dit entre-temps? Rien. Voilà. Mystère. Voilà.
Michel Thérault, un grand merci pour ces mystères du credo, un christianisme pluriel que vraiment on peut recommander à toutes les personnes qui vont à la messe, ou au culte d'ailleurs, pour comprendre ce qu'il y a derrière ces mots et s'empêcher de les prendre au pied de la lettre. Merci encore.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir à tous.